d'une part mieux en parler et d'autre part confier la parole aux porteurs de ces initiatives.
Aujourd'hui, cinquième volet de notre série d'émissions réalisée dans le cadre de notre enquête régionale « Comment le musée peut-il, dans sa démarche, être un espace de dialogue, d'invention et de mobilisation ?» Dans le cadre de cette enquête, nous nous interrogeons sur la place des œuvres d'art plastique portées, imaginées, réalisées par des personnes qui se trouvent en situation de handicap, soit au sein d'hôpitaux psychiatriques ou autres institutions, ou dans leur propre parcours personnel, mais qui, de ce fait, se trouvent être des personnes en marge de la société et des courants habituels de l'art et de la hiérarchie du monde de la culture telle qu'elle se présente aujourd'hui.
Plastiques et les œuvres troublantes que nous proposent de découvrir ces hommes et ces femmes sont regroupées souvent sous la notion d'art brut. Si l'on remonte un peu dans le temps, c'est tout d'abord le psychiatre Hans Pritzhorn, qui le premier a eu l'idée de collectionner les œuvres de ses malades. On commence à suggérer des traits d'union entre symptômes psychiatriques et signes picturaux, entre pathologie et œuvres. Puis c'est Max Ernst, André Breton, la famille des surréalistes, Jean Dubuffet, qui s'empare du sujet.
Pour approcher d'un peu plus près tout cela, Résonance a installé ses micros au musée de l'Art en Marche à La Palisse, dans l'Allier. Un musée, une démarche portée depuis plus d'une vingtaine d'années par Louise Marcel. Très heureux que nous puissions ainsi passer une heure en votre compagnie dans ce musée de l'Art en Marche. Une heure d'échange pour découvrir votre parcours, votre démarche militante, une démarche qui contribuera, nous le verrons au cours de cet entretien, à la naissance de l'Art en Marche et de ce musée. Alors, un musée de l'Art en Marche qui, peut-être on peut déjà en parler comme ça, et puis bien sûr on va rentrer avec vous plus vivement dans le sujet, l'éducation populaire, la liberté d'expression, la laïcité, la promotion de l'art brut, de l'art contemporain populaire, l'organisation d'expositions d'envergure nationale et internationale, et qui cherche aussi à multiplier des activités culturelles, conférences, ateliers en milieu scolaire, interventions d'artistes. Alors, peut-être avant d'aller dans tout le détail de cette démarche, peut-être pourrions-nous aller un petit peu plus loin au début, aux sources, si je peux dire, et puis comment, à partir de quel parcours peut-être une démarche de cet ordre-là a pu, parce que vous avez abordé la sculpture, vous avez eu tout un parcours aussi qui, à un moment donné, vous a emmené sur ces chemins.
Oui, c'est tout bête. Chaque fois que vous faites un pas vers la culture, dans la création, vous faites un pas vers la liberté. À partir de là, on a presque tout dit, nous pourrions finir l'émission là-dessus.
On pourrait conclure l'émission.
Vous avez employé le terme, en ce qui nous concerne, le musée. Eh bien, on n'est pas un musée.
Ah, ça avait déjà une chose importante.
On est une collection, une collection qui est un ensemble de collections d'œuvres appartenant à différents propriétaires, à des artistes, à des collectionneurs privés. Mmh. Et cette collection était avant tout un outil pédagogique. Parce que, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, chaque fois que l'on crée, c'est un pas vers l'autonomie. Ouais. C'est un pas vers l'authenticité, vers ce que nous sommes. Nous cherchons. Et donc, c'est cette liberté qu'il nous faut gagner. C'est presque un discours politique, mais j'aimerais dire que la liberté, la culture, ça se gagne tous les jours, pas à pas. Et il ne faut pas attendre une seule seconde qu'on vienne nous embuquer, comme on dirait dans le Languedoc, comme on fait des foie gras chez les oies qu'on nourrit de force. Non, il ne faut pas se laisser embuquer. Et puis, il ne faut surtout pas... il faut relire Le Petit Prince. Ne devons pas être en aucun cas des allumeurs de réverbères. Voilà.
Ça me paraît aussi déjà quelque chose d'important. Alors, peut-être avant d'aller aussi encore dans ce que va être aussi ce mouvement autour de l'art en marche, vous avez été professeur de sculpture, vous avez été aussi spécialiste dans la rééducation aussi en même temps. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vous a marqué aussi dès le début ?
Oui, je suis... J'avais suivi, choisi de faire des études de prof de sculpture. Ouais. Et j'étais bien trop anarchiste pour bosser dans l'éducation nationale ou même dans une école de beaux-arts. Et j'avais eu l'occasion de faire un stage dans un institut médico-pédagogique. Et là, ça a été le déclic. Ouais. J'ai trouvé une population avec laquelle dans laquelle je trouvais ma place, avec laquelle je pouvais échanger et que je comprenais, c'était pas très important, c'était surtout qu'ils me comprenaient. Et ça. Grâce à eux, j'étais en train de revivre. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais subi. J'avais passé 18 ans de ma vie à subir la société. Et depuis cette époque-là, j'ai compris que je devais continuer à essayer de ne plus subir. J'ai 70 ans aujourd'hui, j'essaye de ne pas subir
toujours
encore.
Toujours ne pas subir encore.
Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, ouais. Parce que les garde-chiens, ils sont partout.
Et ça, du coup, c'est de cette rencontre que, du coup, à un moment donné, ça vous a interpellé sur leur expressivité aussi, sur leur manière aussi de...
J'aime à dire que cette population que l'on dit inadaptée...
Oui.
Les pas plus inadaptés que nous, ouais. Que les autres, etc. D'ailleurs, pendant des millénaires et même encore à l'heure actuelle, dans des sociétés dites primitives, l'inadapté joue un rôle social. Il est même considéré parfois l'envoyé des dieux. Et puis, c'est vrai que c'est quand même vachement pratique de pouvoir dire celui-là, tiens, il est complètement con, donc moi, je suis normal. Et c'est... Je dirais que ça, c'est une évidence sociale que nos politiques connaissent. Hein, ils connaissent cette évidence, ils l'utilisent tous les jours. Moi, ce n'était pas gagné d'avance et j'en étais pas sûr quand j'étais jeune homme. Et quand je suis rentré dans l'enfance inadaptée, j'ai trouvé des gens qui me faisaient confiance. Mais c'est merveilleux, des gens qui vous font confiance. Vous échangez avec eux. C'est un peu comme Prince Horn, lorsqu'il a découvert des malades dont il avait la charge. Le fait même qu'il s'intéresse à cette œuvre, ça veut dire « je m'intéresse à toi qui l'as réalisé ».
Absolument.
Voilà. Alors cet échange...
Il y a déjà un pas vers l'autre.
Voilà. Et c'est ça qui est important. Mmh. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce lien social que nous allons créer, que nous ne savons d'ailleurs pas créer dans la société dans laquelle nous vivons à l'heure actuellement.
C'est vrai que ces personnes, finalement, quand on les rencontre, on ne peut pas tricher quelque part dans la relation.
Ils ne vous laisseront pas tricher.
Absolument.
Et surtout, si en plus vous avez la prétention de leur apporter quelque chose, moi j'aime à dire, ne voyez pas de la modestie là-dedans, c'est tout simplement de la reconnaissance. J'aime à dire que j'espère que je leur ai apporté beaucoup, mais je sais tout ce que je leur dois.
Voilà, c'est ça.
Je leur dois simplement le fait qu'après 18 ans de travail dans l'enfance inadaptée, eh bien, j'ai pu faire autre chose, voler de mes propres ailes. Mais pour arriver à ça, pendant 18 ans, ils m'ont supporté, les mecs. Les mecs et les gonzesses, hein, parce que je me suis occupé de jeunes, de vieux, de tous les sexes, etc.
Ouais. Et du coup, cette mise en chemin, finalement, la rencontre de ces personnes, de les côtoyer, d'être avec, de faire avec, de trouver comment faire ensemble, vous amène aussi à aller un petit peu plus proche de leur expressivité pour, à un moment donné, avoir suffisamment... Comment est venu le fait de se dire, à un moment donné, je bascule vers l'art pictural et je vais même monter une galerie ?
Non, je ne bascule pas vers l'art pictural.
C'est une continuité.
Très honnêtement, vous voulez que je vous dise quelque chose ?
Oui.
L'art, j'en ai rien à foutre. ça, mais vraiment, ce n'est rien. Alors, surtout à l'heure actuelle, ce n'est qu'un objet d'échange, un objet de commercialisation,
etc. Ce qui est bien important, etc. C'est la relation, effectivement.
Ce qui m'importe, c'est quand l'art véhicule la liberté.
Ouais.
Et je vais vous dire pourquoi l'art des soi-disant malades m'intéressait.
Ouais.
Parce qu'eux, ils ne vendent pas. Ils n'avaient pas besoin de séduire, ils n'avaient pas cette démarche que nous connaissons partout avec l'art contemporain, etc., où les gars sont capables de toutes les compromissions possibles pour servir quoi, en fin de compte, leur banquier et la pute de service qui veut passer dans le coin. Et eux, non. Ce qui leur importe, c'est la création. Et cette création, c'est quoi? C'est uniquement que de la liberté. Alors, tant que l'art véhiculera de la liberté, il m'intéresse. Oui. Mais l'art qui ne véhicule pas ça, j'en ai rien à fiche. Pas plus que les multinationales, les grandes surfaces, etc.
Et c'est vrai qu'on va retrouver chez ces personnes, pour évoquer Wolfi, pour être des personnalités reconnues, mais même aujourd'hui, d'autres personnes qu'on va pouvoir côtoyer dans certains ateliers, il y a cette authenticité, elle repose sur une nécessité, finalement, de cette expression, sur cette authenticité au regard de ce que vous venez de dire, qui n'est pas dans une préoccupation de pouvoir effectivement rentrer dans un réseau, ou de vendre, ou d'avoir son offre, mais parce que c'est un besoin vital de pouvoir aussi exprimer, soit, quel que soit le média, la forme, que ce soit la peinture, que ce soit la musique ou la danse, mais il y a une nécessité, en tout cas, de pouvoir dire à travers ce moyen-là.
Je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, il n'y a aucune différence entre celui que l'on va appeler malade, comme Wolfli, par exemple, que l'on a interné et qui a passé sa vie à créer des dessins, de l'écrit, de la musique,
de la musique,
etc.
Aussi, oui, absolument.
Les premiers chamans qui, il y a quelques millions d'années, ont commencé sans doute à faire de l'art tout simplement parce qu'ils avaient peur de la mort, peur de ne pas pouvoir nourrir la tribu ou la famille ou le clan le lendemain. Je pense que l'art est né de ces craintes.
Oui, ces craintes-là.
Et je pense que l'art est né en même temps que les religions, d'ailleurs. Mmh. Hein, et enfin, les religions, la religion. Parce que je pense qu'il n'y a qu'une seule et vraie religion. Les religions, c'est déjà le monde de la finance. D'ailleurs, c'est très récent. Ça ne date que de quelques 2-3 000 ans. Avant, c'était la religion. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le mot artiste, je ne l'aime pas. Et j'aime le mot créateur.
Vous préférez
celui-ci. Qu'est-ce que c'est que le créateur ?
Ouais.
C'est Dieu. Voilà. Alors que les hommes deviennent Dieu et... Ils sont sur le chemin. Hein, et sur ce chemin, chaque pas qu'ils vont faire, ce sera un pas de plus vers la liberté. Donc effectivement, si l'on veut marcher vers Dieu, marchons vers la liberté.
Thank you.
Et nous venons d'entendre Gypsy Moon in the Milky Way, interprété par Raymond Bonny à la guitare et Eric Echampart à la batterie. Louis Marcel, quand on parlait liberté, ces deux musiciens, en tout cas, et que l'art permette cette liberté-là, eux s'aventurent, hein, Raymond Bonny avec sa guitare et en cherchant aussi à la jouer bien au-delà de comment on la joue conventionnellement. Et puis Eric Echampart aussi, parce que c'est quelqu'un qui s'aventure dans toutes les rencontres et à travers la musique. Et la musique est vraiment un objet de rencontre pour lui. Et je trouvais intéressant, en tout cas, de vous proposer la rencontre de ces deux musiciens.
Puis-je vous dire un mot là, à ce sujet-là ?
Bien sûr.
La musique devrait être obligatoire à l'éducation nationale.
On est bien d'accord.
Le chant, comme dans autrefois, dans plein de provinces, comme le Pays Basque, ce n'est même pas une province, c'est un pays. Ils ont raison d'être autonomes d'ailleurs, parce que quand on est basque, on n'a pas envie d'être français. Quand on voit ce qu'est en train de devenir la France, non, les Alsaciens, c'est pareil. Il y avait des musiciens, il y avait des orchestres, des fanfares, etc. C'est obligatoire. La culture doit passer par là. Et en plus, elle est orale, celle-là. C'est celle qui est accessible à tout le monde. Hein, à la différence de celle qui fait que vous ne rentrerez pas à Polytechnique. Mais tout le monde peut chanter et tout le monde peut jouer de la musique. Nom de Dieu, faisons-le.
Alors, nous sommes là, justement, dans les lieux de l'Art en Marche. Et puis peut-être dans ce lieu où il y a 2600 mètres carrés, si je ne me trompe pas, plus de 150 artistes de toutes nationalités, réunis avec passion, bien sûr. Comment s'est constituée toute cette collection, toutes ces œuvres ? Comment vous avez rencontré ces artistes ?
Alors, deux choses. Donc, 18 ans d'enfance inadaptée.
Oui.
Au bout de ces 18 ans d'enfance inadaptée, d'ailleurs, un petit souvenir pour tous les derniers établissements dans lesquels j'ai travaillé.
Ouais.
J'avais 70% de fils de harkis de Villeneuve-sur-Lot et de Sainte-Livrade. Alors, je ne sais pas s'ils se souviennent de moi. En tout cas, moi, je me souviens d'eux. Et je les aimais beaucoup et je les aime encore. Et j'espère qu'ils ont fait un bon bout de chemin. Voilà. Et après ces 18 ans d'enfance inadaptée, je suis devenu marchand d'art. Et j'ai cessé de sculpter, je n'avais plus du tout envie de sculpter, cela me déplaisait, je trouvais compliqué de vivre de la sculpture et je ne voulais plus travailler dans l'enfance inadaptée. Donc je suis devenu le marchand de tous les artistes que personne ne voulait. Et c'était facile, à l'époque il n'y avait qu'une seule galerie en France, c'était la galerie L'Œil de Bœuf de mon ami Cérès Franco, qui maintenant est à la retraite et qui est en train d'ouvrir un musée dans l'Aude. À l'heure actuelle. Je crois qu'il l'inaugure, d'ailleurs, je dis je crois, j'en suis sûr, la semaine prochaine. Et c'est comme ça, petit à petit, que la notoriété de la galerie aidant, les artistes soi-disant bruts, singuliers, hors les normes, pour la petite histoire d'ailleurs, pour l'anecdote, savez-vous pourquoi on appelle toute cette forme d'art de différents noms ? Tout simplement parce que Dubuffet avait déposé le terme art brut et il ne voulait pas qu'on l'utilise à l'époque.
Oui, puisqu'il avait la compagnie de l'art brut. Et
oui, oui, avec Breton, mais très vite avec Breton.
Ils se sont fâchés d'ailleurs avec Breton.
Ils se sont fâchés,
ils se sont fâchés, justement.
Et, oui, mais on est obligé de se fâcher avec Dubuffet.
Et puis Dubuffet s'est fâché aussi avec
Malraux.
Son nom ne me revient plus. Alors, et peut-être avec Malraux. Mais aussi, il avait confié à un de ses amis aussi à un moment donné. Là, et puis il s'est fâché aussi avec lui parce qu'il tenait vraiment à garder... précieusement, finalement, la direction de tout ça.
Vous savez, c'était un marchand de vin. Le côté marchand a pu dépasser. D'ailleurs, à mon sens, l'art brut n'existe pas. C'est une escroquerie intellectuelle. Mais ce sera le débat peut-être d'un jour d'une autre émission.
Mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera parce que c'est une question importante. Là aussi, quand les étiquettes sont là et ce qu'on y met derrière.
Oui, moi, les étiquettes, je les aime guère.
Voilà, j'avais bien compris et je pense que nos auditeurs aussi.
Chaque étiquette est une étoile jaune. Et dans le ciel, nous en avons assez des étoiles.
Si on revient aussi à comment vous rencontrez ces artistes et comment se constitue un peu la collection.
Ben c'est facile de les rencontrer.
Donc vous avez la galerie, vous commencez
à les chercher,
les rencontrer.
La notoriété de la galerie aidant, c'est eux qui vont venir me chercher. parce que bien que Dubuffet avait écrit qu'il ne voulait pas être vendu, qu'il ne voulait pas être comme défendu, je ne sais pas quoi, le jour où il commence à savoir qu'il y a un couillon qui s'intéresse à leur œuvre, un peu comme Prince Horn s'intéressait aux créations des œuvres des malades mentaux, ils se disent nom de Dieu, mais ils pourquoi moi aussi je ne ferai pas partie de la tribu des couillons du couillon. Voilà, alors donc c'est eux qui viennent, je n'ai même plus besoin de faire l'effort d'aller les chercher. Ouais. Donc l'effort que je vais faire, c'est lequel ? Chercher des clients, d'autres couillons, pour acheter les œuvres de mes couillons. Voilà, et c'est comme ça que la galerie des quatre coins
s'est développée au fur et à mesure.
Va naître. Et
donc elle naît à quel endroit alors, du coup, cette galerie ?
Ben elle naît dans l'Aude, dans mon petit village de l'Aude, Azille, rue des quatre coins.
Rue des quatre coins en plus.
Et c'est le nom de ma rue qui va donner le nom de la galerie. Vous avez remarqué à Paris, la mégalomanie des grands marchands fait que c'est leur nom, la galerie Dupont ou Geneviève et Gérard Dupont, je plaisante. Hein. Mais ils vont se reconnaître, ces deux cons. Donc, moi, galerie des quatre coins, ça me plaisait beaucoup parce que les quatre coins, c'est un manque de modestie totale. C'est les quatre coins de la planète, c'est les quatre points cardinaux, etc.
Donc, du coup. Vous en rencontrez un certain nombre. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure...
Les meilleurs.
Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns qui, là, pour vous, sont vraiment
emblématiques ? Non, parce que tous ceux que je ne vais pas citer vont faire la gueule.
Bon, on leur donnera... on pourra les citer à d'autres moments. Mais est-ce qu'il y en a comme ça qui ressortent, par exemple, plus que... chacun doit être hyper intéressant. Nous avons pu visiter un peu avec vous
Alors, je vais citer Pépé Vigne, qui, malheureusement, est décédé.
Oui.
Qui, pendant toute sa vie, a peint une vingtaine de thèmes, et toujours les mêmes, et où il racontait son dualisme, le bien, le mal, le masculin, le féminin. Mmh. Il y avait toujours des cœurs sur ses dessins divisés en deux, un rose-rouge et un autre bleu, c'est clair. Le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Et jusqu'au jour où il a osé peindre, dessiner plus exactement un petit personnage qu'il appelait un phénomène. Et ce phénomène avait des seins, et puis une bite et des couilles, et des boucles d'oreilles, et dans une main un bouquet de fleurs, et dans l'autre une épée. Là c'était clair, il se livrait. Pendant toute sa vie, je présume qu'il il a été bataillé, il a
dans
dû cette
dualité
entre le masculin et le féminin. Mmh. Et pour l'anecdote, la petite histoire, avec les paquets de petits cigarillos qu'il fumait à l'époque, qui s'appelaient des ninas, il faisait des petits dessins qu'il offrait aux gamins dans les rues de Elne, dans les Pyrénées-Orientales. Il appelait ça des bons points. Et quand distribuait-il des bons points ? Quand les gamins ne l'insultaient pas et ne lui jetaient pas des pierres. Voilà. Alors ça, j'ai envie de... En rendant hommage à Pépé Vigne, je rends hommage à tout. Et puis, ça, c'était un des premiers. Un des derniers, Vladimir, dont on vient de publier ses écrits.
Tout un personnage aussi.
C'est pire que ça. Je ne vais pas dire le nom de la maladie. Je ne suis pas psychiatre, puis je laisse ça aux autres. En tout cas, son œuvre, elle est plus que représentative de ce que peut être le trouble du comportement et du vécu d'un individu. Ça fait des années qu'il peint les deux mêmes tableaux, lui et sa mère.
Et inlassablement, il revisite.
Voilà. Et d'une manière tout à fait obsessionnelle. Et bien sûr, c'est des centaines et des centaines de tableaux. Il n'y en a pas un qui est différent, mais les deux thèmes sont...
En permanence, retravaillés.
Et infinis.
Infinis.
Jusqu'à sa mort. Et alors après, les écrits lui permettent d'aller au-delà dans l'obsession, parce que son champ d'investigation est plus large. C'est la politique, c'est la société dans laquelle on vit. D'ailleurs, le jour où j'ai décidé de publier, grâce aux éditions de La Découvrance, Là, je rends hommage à cette éditrice qui a un courage fou. Oui, parce que éditer des ouvrages comme celui-ci, j'aime autant vous dire que ça n'est pas évident. Surtout que le jour où j'ai décidé qu'il fallait publier Vladimir, il m'avait envoyé un mail où il écrivait « Nègre, écarte tes marines ».
Étienne Rollin à la clarinette basse, Ken Carter aussi à la contrebasse dans And What Is It. Et là aussi, Louise Marcel, deux musiciens qui s'aventurent, on peut en citer bien d'autres. On évoquait en aparté aussi Bernard Lubat. Voilà, des musiciens qui appartiennent aussi à toute cette recherche aussi, ce qui va nous permettre peut-être de questionner un peu aussi la question d'art populaire, art de tout le monde, et des musiciens très attachés aussi à cette dimension. Alors nous sommes toujours ici à La Palice, dans ce lieu de l'art en marche avec Louise Marcel. Peut-être on peut évoquer un peu cette question, si vous le voulez bien, un peu de, puisque je dirais même le terme d'art brut, c'est pas quelque chose en termes de terminologie que vous acceptez forcément complètement, mais plutôt se dire qu'effectivement il y a un art populaire, il y a une éducation populaire et un art pour tous, et c'est peut-être là-dessus que les choses doivent s'accrocher fondamentalement.
En vous écoutant, j'ai deux exemples qui me viennent à l'idée, qui pourraient être considérés comme des anecdotes, mais qui vont, à mon avis, bien plus loin que l'anecdote. Mmh. Et j'aimerais que, non seulement on écoute ça convenablement, puis qu'on y réfléchisse. Mmh. Lorsque les armées soviétiques ont libéré les premiers camps de la mort, mmh, on s'est rendu compte que tous les survivants de ces camps, c'était tous des créatifs, des musiciens, beaucoup, des écrivains, des peintres, etc. Donc, cela nous permet de nous rendre compte de l'importance de la création et de la liberté que cette création véhicule, la liberté dont je vous parlais tout à l'heure, cette liberté qui vous permet de inconsciemment ou consciemment d'être résistant, d'être d'abord le résistant pour vous. Parce que si on veut être résistant pour les autres, il faut être vivant. C'est bien le problème de notre époque, c'est que nous sommes tous des morts vivants. Je ne vois pas comment on peut défendre les autres. Il est grand temps qu'on se relève un peu. Et puis la deuxième chose c'est, que je voudrais raconter, c'est la suivante. Pendant la guerre de 14-18, dans nos tranchées, nos poilus au milieu des rats et des obus qui leur tombaient sur la gueule, hein, la boue et tout le bordel que l'on peut imaginer, que l'on a vu en photo, dont on nous parle, eh bien, ils trouvaient le moyen de faire avec une douille de fusil un petit nécessaire à couture pour offrir à leur mère, à leur fiancée ou leur grand-mère, Alors, au-delà de la réalisation de l'objet qui leur permettait de vivre, il y avait encore ce lien affectif entre la famille qui était et eux qui étaient en train de crever. Alors, on est pareil, on est dans le même échange que Prinzhorn ne pouvait avoir
avec ses malades.
Avec ses malades. Et c'est ça qui fait que cette notion d'art brut ne me convient pas du tout et qu'on est dans l'art, dans le vrai, dans la vérité de l'art, l'art qui est nécessaire à la vie, comme on a besoin de respirer, ben on a besoin de créer quand on est un homme à part entière.
Hein.
Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme à part entière et puis un mouton ? Il y en a un qui a le but un peu vide. Hein. Et puis, oui, pardon.
Oui, allez-y, poursuivez.
Vous allez me poser encore une question. Alors, donc, pour en revenir à cette notion d'art populaire, c'est indispensable, c'est d'autre identité.
Oui.
Hein, on est populaire ou on ne l'est pas. On est vivant ou on est mort. Donc, l'art que nous allons faire, c'est notre art. C'est l'art de nos grands-parents qui taillaient un bout de bois
dans cette filiation.
Avec un Laguiol en Auvergne, avec un Opinel dans le Queyras, etc. Mais de toute façon, de tout temps, l'homme a eu besoin de créer quelque chose. Et il n'y a pas besoin d'être au musée d'art moderne de je ne sais quoi, ni au Louvre, pour être reconnu en tant que créateur. Nous sommes tous des créateurs en puissance. Nous devons tous devenir des créateurs. Tout à l'heure, je parlais de la musique et du chant. Le chant, la musique permet de devenir créateur, mais on peut aussi devenir peintre, sculpteur, etc. D'ailleurs, à ce titre, tout le monde sait dessiner. On entend tout le temps dire « Oh, je ne sais pas dessiner ». C'est pas vrai. On ne sait pas regarder. On ne sait pas observer. Si l'on sait observer, on sait dessiner. Tout comme le japonais va jeter sa flèche les yeux fermés et cette flèche atteindra son but, eh bien c'est pareil, si on sait observer les yeux fermés, vous allez dessiner ce que vous voyez et votre crayon va suivre votre main et le cerveau va diriger votre main. Le tout, c'est d'être bien vivant.
Et c'est pour ça que sur ces convictions-là, autour de cette collection, vous avez aussi, à une certaine époque, développé tout un travail aussi en direction d'un très, très, très large public. Il y a eu des stages, il y a eu des ateliers permanents au niveau des enfants, au niveau de l'accueil d'adultes. Toute une dynamique a été mise en place aussi dans cette idée.
Ça va faire rigoler tous mes amis qui savent qu'à l'heure actuelle, je bouffe du socialiste autant que je peux. Je vais rendre hommage à Jacques Lang.
À l'époque où il était ministre de la culture,
il avait créé les classes à Pâques.
Oui,
c'était certainement un des moyens les plus adéquats pour la pratique des artistiques dans les écoles. Et je ne sais pas pourquoi, cette chose-là, on l'a enlevée. C'était absolument magnifique. C'était mettre en relation. Nous, par exemple, au musée, nous recevions des classes d'art, comme il y avait des classes de neige ou des classes vertes à l'époque, pendant une semaine avec un projet pédagogique. À la suite de ce projet pédagogique qui était défini par l'enseignant, nous choisissions l'artiste qui convenait le mieux et l'enseignant et l'artiste se préparaient leur semaine de boulot. Et les gamins étaient dans la salle où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, il n'y avait qu'une porte à ouvrir. Et il y avait 1500 œuvres à la disposition des enfants pour qu'ils pouvaient regarder, qu'ils pouvaient toucher, etc. Et pour finalement, je suis sûr que si on faisait le coût de ces classes à Pâques et de l'argent que l'on dépense avec les projets qui ont été mis en place ces deux dernières années, on se rendrait compte que les classes à Pâques ne coûtaient pas si cher, et en tout cas moins cher que ce qu'une merde coûte maintenant. Parce que ce que l'on fait actuellement, c'est de la merde.
Alors, j'en reviens aussi, à la Palice. On est dans ce lieu. Qu'est-ce qui aussi vous a aidé à faire qu'il puisse y avoir un lieu comme celui-ci, avec une certaine superficie ? Est-ce que les choses se mettent en place ? C'est une liaison aussi, un soutien possible à un moment d'une municipalité, d'une envie aussi d'accompagner le projet que vous commenciez à mettre en place ici ?
Non, on n'a pas eu une aide particulière. D'ailleurs, nous n'avons jamais été des chercheurs de subventions. D'ailleurs, à l'heure actuelle, notre association ne touche pas un centime. Nous n'avons jamais eu un... Moi, je n'ai même pas envie de développer ça, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème, ça. Non, nous avions envie de créer un lieu au centre de la France, en milieu rural. C'était une gageure.
Ça, c'est important, effectivement, de se dire, créons quelque chose, mais en milieu rural.
Oui, où il n'y avait, rien.
Où il n'y avait rien.
Et ça a été... on a gagné un moment, puisque pendant des années, on était le deuxième lieu de l'Allier pour le nombre de visiteurs.
Ah oui.
Je ne vous dirai pas après qui, mais je ne vais pas faire de la pub.
Mais ça, c'est important. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça remplit totalement les objectifs que vous souhaitiez.
À un moment donné, nous avions trois personnels à plein temps. Ouais. On recevait plus, entre 10 000 et 15 000 scolaires par an. Vous comptez sur une année scolaire. Ça faisait plus de 100 gosses par jour, puisqu'on avait trois ateliers, etc. Ouais, on remplissait l'internat du collège à côté, qui était vide, etc. Bon, enfin, ça a été une aventure pédagogique, une aventure humaine absolument fantastique.
J'imagine. Et oui, donc, ça irriguait tout le territoire, finalement.
Et puis, à cette époque-là, dans l'Allier, il n'y avait pas tous ces musées qui existent maintenant, qui sont subventionnés avec le pognon du contribuable.
C'est ça, et qui dépendent du département, j'imagine.
Oui, du département, aussi. Ce qui fait que maintenant, le département dit que les musées marchent très fort, mais ça coûte très cher. Si on faisait le calcul dont je vous parlais tout à l'heure, le coût divisé par le nombre de visiteurs, on se rend compte qu'un visiteur coûte aux contribuables trop d'argent.
Alors là, on vient de dire, c'est à l'intérieur de ces propos-là que l'on vient de tenir, il y a une époque où cette initiative prend toute une dimension, se développe dans tous les sens.
Elle a deux dimensions, cette initiative. D'une part, elle prend une telle envergure et l'association va fonctionner de pair avec la galerie.
Oui.
Et ce qui fait que l'association va devenir en fait l'outil de promotion de la galerie. Regroupe les artistes de la galerie et la galerie les commercialise à travers le monde. À cette époque-là, la galerie des quatre coins, par exemple, était la première galerie à exposer à New York. Je peux me vanter d'être une des rares galeries françaises à avoir eu une page dans le New York Times à l'époque. Même à l'heure actuelle, il n'y a pas eu beaucoup de galeries françaises qui ont eu une page dans le New York Times.
Oui, parce que le tour de force, Louis Marcel, c'est d'arriver à faire que non seulement cette collection existe, qu'on vient de dire puisse irriguer aussi un territoire, mais elle s'exporte et ça dans de nombreux pays.
Mais simplement au mois d'octobre, nous allons être en Allemagne et en Hollande.
Oui, donc
on est dans l'Europe. On n'est pas bien loin maintenant.
Mais c'était quand même vraiment... c'est bien la démonstration de toute l'importance de la démarche ici et puis de ces résonances aussi multiples qui ont pu aussi se développer à partir d'elle.
Ça continue. Alors, le musée actuellement est fermé au public. D'ailleurs, on n'emploie plus le terme de musée.
Il n'y a plus de musée. C'est ça.
C'est
il n'y a plus d'équipe permanente.
Non, il n'y a plus de salariés.
Et ça, peut-être à quoi l'attribuez-vous? C'est un changement d'optique? C'est une manière de vouloir développer autrement les choses?
C'est-à-dire qu'il y a eu, ces dernières années, on fonctionnait que, ça c'est technique, on fonctionnait que 6 mois par an et je ne trouvais pas du personnel qui acceptait de travailler que 6 mois par an. Donc tous les ans, il fallait changer, etc. Oui. Et ça devenait infernal.
Très compliqué, oui.
Moi, j'ai besoin de faire confiance et de déléguer. Donc, à partir du moment où je ne peux plus déléguer, je ne fais pas confiance, je suis emprisonné dans un système qui ne me convient pas du tout. Donc, je préfère fermer et point.
Donc, du coup, l'association fonctionne différemment. Comment aujourd'hui elle ressente ses activités? On a parlé un petit peu de l'édition. On continue bien sûr des expositions, mais aussi vous faites des conférences, de nombreuses conférences.
Actuellement, par exemple, nous avons organisé une exposition. Alors, c'est une exposition que j'aime beaucoup parce que ça correspond aux idéologies et aux objectifs de l'association. Nous exposons dans une résidence de personnes âgées à Vichy qui s'appelle L'Orée des Termes. Et donc, et je vais faire deux conférences par mois là-bas. Et cette exposition est ouverte aux scolaires. Ce qui fait que tous les scolaires de Vichy qui n'ont pas de pognon pour prendre le car et venir visiter je ne sais quoi, ils peuvent à pied se rendre dans cette exposition. Les conseillers pédagogiques, d'ailleurs, en art plastique, y ont participé. Oui. Et ça se passe merveilleusement bien. Et ça fait du lien social entre ces gamins de classe maternelle qui arrivent là-dedans, dans une résidence de personnes âgées. C'est fantastique. On n'a plus besoin du musée. Le musée est en itinérance, il se balade, c'est la transhumance de la remarche.
Donc c'est ça qui est, je trouve aussi qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'être uniquement dans un lieu fixe, au contraire, les œuvres voyagent d'un lieu à un autre et du coup mettent en liaison des publics les plus différents possibles.
Mais nous avons une exposition au lycée Godefroy de Bouillon à Clermont-Ferrand. Oui. Toutes les propositions dignes et pédagogiques d'intérêt, on les accepte.
Et ça, c'est...
Et gracieusement, on fait rien payer.
Ça, c'est important aussi également. Oui, oui. Et c'est eux qui viennent vous chercher, qui connaissent l'existence. Oui, et c'est eux qui sollicitent...
Oui. En plus, s'il fallait avoir des représentants de commerce pour vendre la liberté, on est mal barré. Hein.
On serait mal. Divertimento, une pièce de 1994 du compositeur polonais Krzysztof Penderecki, un des grands compositeurs de ce pays pour violoncelle solo, interprété par Michał Kanka, membre du quatuor Praxa Quartet. Alors peut-être Louis Marcel, pour terminer cet entretien, j'aimerais aussi peut-être qu'on essaye de s'aventurer sur cette question que... Aujourd'hui, on a évoqué notre émission autour de l'art brut et cette présence. Et on voit que de plus en plus, l'art contemporain, finalement, on dirait presque a besoin un petit peu de cet art brut pour faire vivre ces expositions. En tout cas, on sent que s'il y a une certaine époque, c'était un peu mis de côté. On sent qu'aujourd'hui, on l'a senti à travers certains de vos propos, que le marché de l'art, en tout cas, s'empare un peu d'un certain nombre de choses, dénaturerait peut-être aussi un peu tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce que j'en pense est tout simple. L'art contemporain s'essouffle. Et c'est normal qu'il s'essouffle parce qu'il ne vaut rien. C'est clair. Je veux dire, il n'amène rien au niveau de philosophique, au niveau même culturel. Vous faites rentrer un Pékin moyen dans un musée d'art contemporain officiel, s'il n'est pas initié au support surface, au conceptuel, au minimalisme, ou je ne sais quel... encore école, il n'y comprend rien. Il faut être initié. Donc, d'ailleurs, ces amateurs d'art contemporain se prennent pour une élite parce qu'eux, ils sont initiés, donc ils considèrent qu'ils sont les maîtres du monde et tous ceux qui ne comprennent pas ça sont des cons. Alors, élitistes sur un plan intellectuel élitistes sur un plan fric. Parce que le plug anal, pour ne citer que cette merde, c'est presque c'est un pléonasme d'ailleurs, ça coûte combien ? Et ça fait marrer qui ? Personne. Hein, ça surprend, mais en fin de compte, ça fait pleurer si on réfléchit. Surtout qu'il y a peut-être encore un peu de pognon du contribuable là derrière. Certainement. C'est triste. Alors, donc, cet art contemporain, pour moi, n'a aucun intérêt. Louis XIV, je suis sûr qu'il ferait la gueule s'il voyait les saloperies que l'on met dans son parc. Il ferait venir les éboueurs. Et ça n'amène rien à l'homme. Et je crois que lorsque l'on est dans la mouvance de cet art contemporain, on est les collaborateurs d'un système, et notre système économique, hein, parce que oui, l'art parce contemporain, que c'est ça qui... rien n'a changé depuis les Médicis, ce sont des œuvres qui sont mécénées par les politiques, par les pouvoirs religieux, les pouvoirs économiques, etc., par les pouvoirs en place. Mmh. Donc, le tiers-État, là-dedans, tel qu'on nous l'a appris quand j'étais petit, il y a plus de 50 ans maintenant à l'école, il n'a pas changé. C'est la même guerre. Et il n'y a pas de place pour eux. Et donc, soit on est collabo du système économique, soit on est résistant. Si on est collabo, on ne peut pas être dans l'art contemporain. Et si on est résistant, on est dans l'art populaire.
Dans l'art populaire.
Et il est indispensable que nous restions là-dedans, parce que c'est cet art qui véhicule nos libertés, et puis que nous devons nous prendre, hein, parce qu'on ne va pas nous les donner, les libertés, mais nos identités, nos cultures, etc. Et ça, il ne faut surtout pas le perdre. C'est comme le latin et le grec, il faut qu'on se le garde aussi. C'est dramatique. La liberté va passer à travers ça. Hein ? Comme les Marocains doivent garder la langue berbère, dont j'ai oublié le nom maintenant. Mais c'est indispensable pour leur identité aussi.
Merci beaucoup, en tout cas, Louise Marcel, d'abord de nous avoir accueillis ici, et puis d'avoir pu évoquer en toute liberté, justement, et ça c'est très important dans cette émission, voilà, vos réflexions, vos impressions, vos regards très pertinents aussi sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et sans transition, si je peux dire, mais dans la continuité quand même, Tiffany, nous allons retrouver la rubrique de Gérard Bonnefond.
Tout à fait, avec qui nous découvrons ensemble, au gré de la saison radiophonique, l'histoire de l'évolution des pratiques artistiques au sein des établissements de santé et de soins.
Des mobiles qui font fuir le mal et rechercher le bien, mais elle est loin d'être toujours nécessaire. Mais François Leray, dont la méthode très discutable ne se réduit pas au seul dolorisme, développe une politique asilaire fondée sur l'instruction générale du peuple, les pratiques artistiques et bien sûr le travail. Il est animé par une impressionnante volonté de guérir et son projet est aussi de combattre l'oisiveté et de faire reculer l'ignorance. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la pratique musicale. François Leray utilise la musique et le chant dans une perspective thérapeutique, au bénéfice du plus grand nombre d'aliénés. Une activité de chant, puis une chorale sont organisées. Que dit Leray ? Maintenant, après nos séances de lecture, on égaye la matinée par quelques chansons, au choix desquelles j'apporte une assez grande sévérité. Et j'ai la satisfaction, en quittant mes malades, de leur laisser quelques idées et quelques sensations douces qui, se multipliant chaque jour, chez ceux qui sont curables, ne peuvent manquer de favoriser leur retour à la maison. Alors, une chorale composée de malades et de musiciens aveugles donne deux fois par semaine un concert auquel sont obligés de venir l'ensemble des malades. Et Willem, musicien et pédagogue, conçoit un projet d'éducation musicale adapté à l'état intellectuel de nos malades. François Leray dispose donc, pour l'enseignement de la musique, de la méthode Willem. Des concerts sont organisés. Et Alexandre Millet, ancien interne, raconte. Le 15 août 1841, à l'occasion de la fête de l'Assomption, plusieurs artistes très distingués de l'opéra et de l'opéra comique sont venus mêler leur voix à celle des aliénés. Dirigé par M. Trévaux, chef des chœurs de l'opéra, et accompagné par la jolie Mme Vartel, qui a touché l'orgue expressif avec un goût exquis, ces artistes ont exécuté le Gloria et le Credo de Courtin, l'O Salutaris et l'Ave Maria de Cherubini. Jamais les pauvres aliénés n'avaient entendu pareille harmonie. Jamais leur physionomie n'avait été si expressive, si intelligente. Et lorsque vint pour eux le moment de faire entendre les morceaux qui leur avaient été appris et que M. Ronger avait composé pour cette solennité, Kyrie Eleison, Sanctus, Agnus Dei, ils chantèrent avec une âme et un ensemble qui ne leur était pas habituel. François Leray fait réaliser un recueil de 75 chants pour les élèves de l'école de l'Hospice de Bicêtre en 1840, qui doit les accompagner pendant leur séjour, puis quand ils seront de retour dans la vie ordinaire. Dans la préface, il précise que comme pour les exercices militaires matinaux, où les aliénés sont en rang et marchent au pas en suivant leurs camarades plus expérimentés que leurs chefs de modèle, le chant répond à des principes d'apprentissage similaires. Qu'écrit Leray ? De même, pour nos exercices de musique, si ceux qui chantent bien ne venaient pas, ou si tout en venant ils gardaient le silence, ceux qui ne savent pas chanter, ceux qui sont tristes, ne chanteraient pas non plus. Et par là, il se trouverait privé de la distraction que le chant doit procurer. Le volontarisme de Leray est toujours présent et de règle. Et la pratique du chant, régulière et intensive, doit être intégrée afin que de retour dans leur foyer, les aliénés guéris puissent poursuivre cette activité. Il n'est aucun de vous, sans doute, qui ne connaissent les cours publics de chant fondés par messieurs Willems et Menzer. Les ouvriers qui suivent ces cours, trouvant un grand plaisir à répéter ce qu'ils ont étudié, se réunissant entre eux le dimanche, ils chantent dans leur famille beaucoup mieux que ne chantent souvent les chanteurs de profession, et surtout de meilleures choses. Ces ouvriers, au lieu de dépenser, comme tant d'autres, le gain de leur journée est de passer de longues heures à boire et à faire ensuite ce que peuvent faire des hommes privés de leur raison, se montrent rangés, économes et se conduisent en tout comme de sages et honnêtes citoyens. Une éducation morale est instaurée et le répertoire retenu invite à l'adoption d'une bonne conduite sociale. Leray explique. Monsieur Guéry a eu la sage précaution de prendre, parmi les pièces de vers que l'on peut chanter, celles qui expriment des pensées douces, consolantes ou religieuses, parce que ces pensées sont les plus propres à soutenir le courage et à faire naître l'espérance dans l'âme de ceux qui sont affligés. Le chant devient le support d'un message pour forger l'âme. Le répertoire constitué correspond à l'idéologie de l'époque. Le dispositif conçu par François Leray va faire école. Et la Gazette médicale de Paris, dans le feuilleton du numéro 7, daté du 12 février 1842, fait l'éloge de cette entreprise musicale. Plusieurs membres du Conseil général des hôpitaux allant à Bicêtre se convaincre par eux-mêmes de l'heureuse influence que les premiers essais de M. Leray avaient exercée sur tous les malades confiés à ses soins. Éclairés par eux, le Conseil général nomma un maître de musique chargé de régulariser la nouvelle institution et d'en faire une véritable école de chant populaire. À la rentrée, pour de nouvelles histoires et bonnes vacances.
Merci Gérard et à bientôt. Et bien voilà, Louise Marcel, nous arrivons au terme de cette émission. Un retour éventuel sur ce que vous venez d'entendre par rapport à cette histoire. On a régulièrement la présence de Gérard Bonnefond qui nous fait part un peu dans toutes ses recherches de comment les choses se travaillaient, notamment au cours du 19e.
Ben moi, je vais retenir qu'ils invitent à chanter, à faire de la musique.
Oui.
Ça date d'un siècle,
oui.
Et c'est toujours d'actualité. Et je me pose toujours la question, pourquoi quand on sait quelque chose, on n'est pas foutu de le garder?
On va garder ces mots-là. Merci Louise Marcel de nous avoir permis de réaliser cette émission ici, chez vous, à La Palice, dans les lieux et au lieu de cette magnifique collection de l'Art en Marche. On va suivre attentivement, hein, on verra comment dans les prochaines émissions on peut faire écho de ce qui se passe ici. Donc nous arrivons, chers auditeurs, au terme de cette émission. Aujourd'hui, j'étais accompagné de Tiffany Vacher, Gérard Bonnefond, Simon Deborne, Laurent Cusin et Simon Deborne, bien sûr, à la technique et à la réalisation. Cette émission de Résonance sera rediffusée jeudi prochain de 18h à 19h, puis mardi de 13h à 14h. Pour réécouter, podcaster la présente émission, vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou vous rendre sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Voilà, nous allons arriver, comme l'annonçait Gérard Bonnefond, à la coupure d'été. Nous allons travailler justement à vous préparer de nouvelles émissions. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison radiophonique. Merci pour votre confiance et votre curiosité. Pour notre part, bien sûr, nous vous retrouverons dès le mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien et bel été.